Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Nous nous flattons au Canada d'être vertueux au point d'en faire l'axe identitaire fondamental de cette nation qui fait tout pour nier la nation. Mais on oublie souvent que la vertu se berce souvent à la douce chaleur de la condamnation morale. Ainsi, gare à quiconque pose une question sur le passé d'un politicien d'une religion autre que le christianisme, il sera intolérant. Gare aussi aux défenseurs de la laïcité québécoise, il sera raciste. Et gare à quiconque est associé, ne serait-ce que par allusion, indirectement ou de façon très lointaine à quelqu'un d'extrême droite, il sera dorénavant infréquentable. C'est dans cette belle harmonie que nagent nos politiciens. Le point avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick.
Bonjour Jean-Philippe.
J'ai énoncé des grands principes, enfin, des grandes observations, mais on peut aussi les appliquer à l'actualité de la semaine passée, non?
Vous faites votre profession de foi wokienne, wokiste ou woke, tout simplement?
Woke, woke dans un autre sens peut-être que vous l'entendez. Alors commençons par la première nouvelle.
Oui. Et quelle serait votre première nouvelle à vous, Jean-Philippe? Parce que moi j'en ai trois ici sur le.
Ben écoutez, il y a quelqu'un qui s'appelle Borja Manay, donc, qui est commissaire contre le racisme à la ville de Montréal, qui était nommé, et ça fait des vagues. Le gouvernement Legault a dit que c'était une erreur parce qu'elle s'était déjà positionnée contre la loi 21.
Alors, quelle étonnante réaction. Enfin, c'est pas la réaction qui est étonnante, c'est qu'on l'ait entendue. Voici donc une commissaire au racisme et à la discrimination systémique au pluriel. Hein? Donc, on comprend que le racisme systémique est un concept entendu ici. D'office, il est reconnu. Ce qui va, bien sûr, en sens contraire de ce que prône François Legault, qui dit du racisme au Québec, il y en a, mais y a-t-il un système raciste? Je n'en suis pas certain. Combattons le racisme. Bon. Tandis que les tenants de la théorie du racisme systémique, eux, voient très mal la réaction de M. Legault à ce sujet.
Oui, parce qu'on n'attaque jamais un dogme. Une simple question est une attaque frontale pour un dogme.
En effet, vous avez bien raison. Je parlais de la profession de foi woke il y a un instant. Alors, le mouvement woke étant cette nouvelle gauche très morale américaine qui, démontriez d'éloquente façon, j'appelais vos classes de rechef parmi les racistes, les xénophobes, les intolérants, les machinphobes, les sociophobes, les solophobes. Donc, vous soulevez une question. Donc,
François Legault. Cageophobe.
Oui, vous avez bien raison. Alors, François Legault est bien perché dans la cage aux phobes lui-même, puisqu'il ne reconnaît pas le racisme systémique. Et donc, il s'est fendu d'une réaction à cette nomination par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en disant. Cette nomination est une erreur et on soulignait le fait que Mme Manay est une militante notamment très fervente anti-loi 21 et elle est allée lors de rassemblements là, publics jusqu'à dire que le Québec était devenu désormais une référence chez les suprémacistes du monde entier.
Bon, vous voyez un peu.
Alors l'amalgame est assez puissant là tout de même. Alors on comprend là d'emblée que c'est quelqu'un qui est très très campé idéologiquement. Si le but de la mairesse Plante était de faire un geste rassembleur pour reposer une première pierre dans l'édifice de la réconciliation, pour amener les uns et les autres à s'intéresser à la question du racisme, sans toutefois prendre de front ceux qui, comme François Legault, n'adhèrent pas à tous les concepts de la gauche woke, ben c'est raté, parce que, évidemment, c'est une militante. Comment se fait-il? Oui, allez-y, je vous écoute.
Il y a une chose, Nick Payne, on est en année électorale municipale, je crois que c'est en novembre dans les élections municipales, forcément, Valérie Plante n'a pas exactement le vent dans les voiles. Et voilà. Comme vous disiez, cette nomination de Borja Manay serait-elle une façon désespérée d'aller pêcher dans des eaux qui iraient voter ailleurs, peut-être?
Ouais, tout à fait, c'est un cri de ralliement, en fait, c'est une marque. On va chercher quelqu'un de la famille, du cercle idéologique le plus basique, le plus dur là, qui porte Projet Montréal. Enfin, on souhaite avoir le vote de ces électeurs-là. Alors, on y est allé d'une nomination qui entre franchement en contradiction avec ce que dit le gouvernement du Québec. Mais pour François Legault, La réaction qui est inusitée, il faut bien dire, là, se mêler de politique municipale à ce point-là en dénonçant une nomination, ben, c'est une réaction politique, enfin électorale ou de qui est motivée par des considérations de marché électoral aussi, il faut bien dire. M. Legault n'était pas obligé de se prononcer là-dessus. Il y a beaucoup d'autres choses à faire ces temps-ci. Mais il envoie un message très clair, lui aussi, à son électorat, qui, si vous voulez mon avis, est beaucoup plus vaste que celui de la seule gauche qui croit au concept de racisme systémique. Et M. Legault, lui, tient à marquer le coup et à dire « Voici une mauvaise nomination, nous ne sommes pas dans ce camp idéologique. » Et ça pourra toujours être payant. Ce sont des points en banque, finalement. La CAQ a besoin que vive ce clivage entre la nouvelle gauche et les gens ordinaires qui en ont un peu soupé, parce que c'est le clivage qui permet d'oblitérer l'ancien clivage souverainiste fédéraliste qui laisse le Parti québécois et le Parti libéral un peu sur la touche en ce moment.
Alors justement, Nick Payne, ça m'amène au deuxième sujet. Voyez-vous un parallèle entre cette réaction de François Legault face à la nomination de Borja Manay à la ville de Montréal en tant que commissaire à la lutte au racisme et à la discrimination? Faites-vous un parallèle entre cette nouvelle-là et la réaction d'Yves François Blanchet, patron du Bloc, à Ottawa? Il se posait la question sur le nouveau ministre des Transports, Omar Al-Rabra, et l'indignation de Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a de part et d'autre chez Legault et chez Blanchet un calcul? On rameute l'ardeur des troupes, on s'assure la fidélité des valeureux et des vaillants chevaliers? Ou est-ce que là, il pose une question qu'on est en droit de se poser en démocratie?
Mais absolument. Alors, le parallèle est parfait. L'espèce de duel Legault-Plante s'est reproduit entre Blanchet et Trudeau. Le duel est fondé sur le même clivage idéologique. Et là où il y a calcul, il peut y avoir aussi conviction réelle. Alors, François Legault est franchement opposé à cette famille idéologique-là, tout comme Valérie Plante y adhère franchement. C'est la même chose à Ottawa. Et François Blanchet a posé des questions légitimes sur les accointances du nouveau ministre des Transports, notamment sur son possible appui à l'application de la charia en Ontario, là, dans certains cas de litiges familiaux ou conjugaux, je ne me souviens plus.
Oui, en droit privé, oui.
Le ministre nie, mais Jean-François Lisée, notamment dans Le Devoir récemment, citait un passage de sa réaction à l'échec de cette proposition en Ontario à l'époque. Il est vrai que le ministre avait l'air un peu déçu de l'échec. Alors, allez savoir. Mais il faut le croire sur parole. Il dit qu'il n'a jamais appuyé l'application de la charia en Ontario. Bon, bref.
En tout cas, un des prédécesseurs d'Yves François Blanchet à la tête du Bloc, c'était Gilles Duceppe, qui a dit en substance Yves François Blanchet a raison sur le fond, mais sur la forme, il n'a pas vraiment été très, très, très judicieux. Il a pris une certaine distance eu égard à la forme avec laquelle Blanchet s'est prononcé, mais sur le fond, Duceppe est d'accord avec Blanchet.
Oui, M. Duceppe triomphe dans le rôle de gérant, d'ancien chef qui fait le gérant d'estrade, encore une fois. Il a le droit de le faire. Remarquez, des fois, ici, au Québec, on, à mon point de vue, on fait preuve d'une espèce de mépris qui n'est pas nécessairement indiqué à l'endroit des anciens chefs de parti qui ont le droit, comme n'importe quel citoyen, de se prononcer sur les questions qui les intéressent. Et donc, M. Duceppe a dit, quand on pose une question comme celle-là, il faut qu'on soit sûr de la réponse. Sinon, c'est une stratégie qui peut se retourner contre nous. Et effectivement, bon, il apparaît que le ministre nie les allégations d'Yves François Blanchet. Bon, il reste que M. Blanchet, ici, a probablement exprimé la même volonté d'appartenir à ceux qui osent défier la loi de la diversité et de l'inclusion en posant des questions difficiles, un peu comme le fait François Legault. Et Justin Trudeau, lui, réagit comme il se doit en défendant la famille diversitaire, machin, tout ce que vous voudrez, en accusant, blâmant sévèrement Yves-François Blanchet, en disant « Vous êtes un fomenteur de... » Ce sont mes mots, hein, mais ça voulait à peu près dire ça. « Vous fomentez la haine et... » Vous avez des suspicions qui sont injustifiées, c'est déplorable, ça n'a pas sa place au Canada. Moi, si j'avais été François Blanchet, j'aurais répondu bien très bien. Faisons les.
Restez au Canada.
Mais oui, c'est ça. Restez-y. Nous, nous partons. Mais voilà. Puisque c'est un parti souverainiste.
Tout à fait, oui. C'est quand même incroyable que, je disais en introduction qu'au Canada, on se flatte d'être vertueux au point d'en faire un axe identitaire fondamental d'une nation qui fait tout pour nier la nation, et on oublie que la vertu souvent se berce à la douce chaleur de la condamnation morale. J'ai l'impression que à Ottawa, notamment chez les libéraux, on a, le NPD aussi très certainement, la morale remplace le politique. C'est l'impression que j'ai, je ne suis pas politologue, peut-être que je dis une énormité, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de faire de la vertu un fer de lance dont la vie des nations internationales, à l'international, se moque complètement. Je veux dire, j'ai l'impression qu'au Canada, on est dans une bulle d'autosatisfaction, on se pavane avec cette fleur à la boutonnière. Est-ce que je suis trop caustique, trop méchant? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oh, vous êtes certainement trop méchant, Jean-Philippe, mais non, sans blague, vous faites une lecture qui, je pense, est très juste. Et ça nous ramène au fait que être patron de fédération, comme l'est Justin Trudeau, donne beaucoup plus d'aptitude pour jouer dans les concepts éthérés que lorsque vous gérez les affaires provinciales avec le système de santé qui craque de partout, les déficits. Ouais, ouais. À Ottawa, c'est la mascotte, c'est youpi, hein? On brandit le drapeau, le Canada c'est merveilleux, on gère un peu, mais enfin beaucoup, beaucoup moins. Donc on a beaucoup de temps pour se camper en camps idéologiques comme ceux-là. Et à cet égard, le NPD et les libéraux ne font qu'un désormais, ce qui, décidément, finit par laisser beaucoup d'espace au centre et à droite de l'échiquier politique, ce qui nous permet de faire le pont bientôt vers le prochain sujet, Erin O'Toole, qui veut occuper cet espace.
Justement. Est-ce que Erin O'Toole, qui a de la peine à établir sa marque de commerce au Canada et au Québec, est-ce que là, il a une occasion, parce qu'on parle de ce député Derek Sloan qui aurait reçu à son insu quelques dollars d'un suprémaciste blanc, et puis il a renvoyé le don, mais trop tard, parce que quelqu'un est allé voir dans les comptes du Parti conservateur, et là, aux surprises, il y avait cet homme-là qui avait donné 100... une centaine de dollars, ou je ne sais pas trop combien. Et donc là, à l'heure où on se parle, Nick Payne, vous et moi, le Parti conservateur donc fédéral est en train de statuer sur le sort de Derek Sloan, député conservateur. Est-ce qu'on le garde ou on ne le garde pas?
Que le chef souhaite évincer du caucus.
Voilà.
Hier, M. O'Toole a également affirmé sa volonté d'en découdre, en fait, de se départir, de chasser la frange plus extrême de son parti politique. Juste, on comprend que c'est d'une part que c'est parce qu'il veut occuper le centre laissé vacant par Justin Trudeau. On comprend aussi dans le cas de M. Sloan que cette fois-ci c'est un peu une excuse, hein, c'est-à-dire que c'est une accumulation de coups de pitrerie et de spectacle un peu parfois disgracieux ou dissident de M. Sloan. On attendait là la prochaine occasion de pouvoir lui retirer le sortir du caucus conservateur. Je pense que c'est ça qui se produit là en ce moment, mais on verra.
Pardonnez-moi,
bien.
Pardonnez-moi, mais vous en parlez comme d'un pitre ou de ses pitreries. C'est quand même quelqu'un qui a des convictions avec lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais c'est quand même pas un clown.
Non, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui se fait remarquer, je cherchais mes mots, par des coups d'éclat. Bon, voilà.
Ah, pardon, oui.
Et ce sont des coups d'éclat qui sont, évidemment, qui vont beaucoup trop à droite pour Erin O'Toole, qui cherche à sortir du complexe Andrew Scheer, hein, du problème.
Oui.
Je me souviens de M. Scheer qui essaie de se dépatouiller sur la question de l'avortement, et ça ne marchait pas. M. O'Toole, de toute évidence, fait le pari d'un recentrage. Il pense que son parti aura davantage de succès en modérant un peu ses transports à droite. C'est pas certain, ça, hein? mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'espace au centre désormais, mais nous sommes à l'époque où il y a de la place au centre, en général.
Mais le problème, c'est que comme les extrêmes se renforcent, il va falloir trouver quelqu'un qui fasse l'extrême centre. C'est pas donné à tout le monde de jouer à Salomon. Hein.
Vous avez raison, c'est le cas de Macron, par exemple, qui s'est vraiment campé à l'extrême centre, en marquant beaucoup le trait, en disant « je ne suis ni à gauche ni à droite, sortons de ces... » Alors c'était une façon d'être radical au centre, ce qui n'existe pas pour le moment au Canada ou aux États-Unis encore moins. Est-ce que M. O'Toole peut remporter ce pari? On a plutôt l'impression qu'il choisit une espèce de centre mou avec lequel on pourrait toujours, entre gens raisonnables, être d'accord par ailleurs, mais je ne suis pas certain que ce soit électoralement rentable ni très inspirant à l'époque des réseaux sociaux où tout le monde prend des positions très, très marquées.
Vous ne pensez pas que la mollesse, c'est l'envers ou l'avers de l'hystérie qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? J'ai l'impression que la mollesse est une vertu canadienne assez prisée. Et qui fait que ce pays est quand même stable, assez bien gouverné, où il ne fait pas trop mauvais vivre par rapport à d'autres pays.
Oui, mais c'est vrai que ces leaders se sont campés davantage qu'avant. Vous aviez ces deux partis de centre, machin, plus ou moins gauche, centre plus ou moins droite, les libéraux et les conservateurs autrefois. Depuis Stephen Harper, on est allé dans une droite un peu plus dure, et avec Justin Trudeau, on va dans une gauche nettement plus dure aussi. Alors, est-ce que M. O'Toole peut reculer dans le temps et nous ramener à l'époque des bons partis de centre raisonnables, un peu mous? Je n'en suis pas certain. Je pense que
alors, vous avez déjà cofondé Option Nationale. Je vous propose, vous et moi, Nick Payne, de cofonder l'extrême mou.
Oui, mais ça, c'est un peu déshonorant. J'irais pour extrême centre. Si vous préférez extrêmement mou, je ne suis pas certain de ça, mais...
Écoutez, il nous reste 3 minutes. On va terminer avec le conflit Pierre-Arcan-Dominique Anglade chez les libéraux du Québec. Là aussi, ça brasse un petit peu, non?
Alors, quelle histoire? Vous vous souvenez de cette opprobre jetée soudain sur les voyageurs dans le sud par un reportage du Journal de Montréal?
Et on peut le comprendre.
Et pendant la même période, on s'est aperçu que certains députés voyageaient aussi et ils ont généralement perdu leur poste, perdu leur fonction un peu partout au Canada, même ailleurs dans le monde, mais au Canada, certains, un ministre en Ontario, d'autres dans les provinces de l'Ouest. Et ici, Pierre Arcan, l'ancien chef par intérim du Parti libéral, très respecté, bien installé... dans un comté, dans un château fort libéral, qui avait différentes responsabilités au caucus et qui, déjà perdu suite à son voyage, était dans les... j'ai un blanc de mémoire, dans les îles Vierges ou au Bahama ou quelque chose.
La Barbade, c'était la Barbade, je pense.
La Barbade, voilà, pardon, je me suis trompé de paradis fiscal, mais bref. Et donc, M. Arcan, alors selon Dominique Anglade, M. Arcan avait été averti, on lui avait suggéré de ne pas voyager, il a voyagé quand même, et il a payé le prix fort. D'après lui, d'après son entourage, Mme Anglade n'a jamais été aussi ferme à cet égard, et on prend plutôt mal cette décision un peu, comment dire, on voit un peu de couardise dans la décision de Mme Anglade de faire payer le prix à son député au moment où elle s'est rendue compte que là, dans les médias, ça devenait délicat de ne pas condamner un député qui avait voyagé, et il semble que depuis, la chicane est un peu ça boude ça et là chez les libéraux.
C'est quand même un poids lourd. Pierre Arcan, c'est quand même un poids lourd. Est-ce qu'on peut parler là de il nous reste une minute. Est-ce qu'on peut parler d'une question de d'image? Les politiciens ou les politiciennes veulent redorer leur blason, veulent toujours avoir l'air d'être impeccables ou pas?
Alors, c'est une nouvelle chef qui n'est pas encore solidement installée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle prend cette décision sans manifestement...
30 secondes.
Sans avoir réussi à installer, convaincre autour d'elle dans le parti. Oui, on a l'impression d'une chef qui est portée sur l'image. Cette semaine, vous aviez Valérie Plante qui faisait l'objet du même genre de récrimination, autoritarisme, censure, et le reste, on bloque des députés qui veulent parler, des conseillers dans le cas de la ville. Ça nous rappelle Valérie Plante et Pauline Marois qui ont toutes deux traversé des périodes comme celle-là. Est-ce que c'est une affaire de femme? Je n'ose aller là, mais il y a peut-être un début de question qui se pose. Est-ce que c'est plus difficile pour les chefs femmes d'installer leur autorité?
Grosse question. On va se quitter là-dessus, Nick Payne. On vous retrouve mercredi prochain.
Avec plaisir, Jean-Philippe.
Merci, Nick. Voici la fin de l'émission. Demain, entrée en fonction de Joe Biden, 46e président des États-Unis, et il y a 228 ans, un régicide français aux conséquences incalculables. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain à 12h15, comme d'habitude.